Toute réflexion doit s'inscrire dans l'histoire, et l'histoire de la radioprotection, c'est ce que va nous raconter maintenant, nous résumer maintenant Paul. Je lui donne la parole.
Merci Marc. Bonjour à tous.
Je vais vous présenter, Paul Lannoy, tu es scientifique de formation, tu es ancien fondateur du parti écolo en Belgique et tu as été député du Parlement européen pour le groupe des Verts.
Bonjour à tous. C'est vrai que je vais vous parler un peu d'histoire, parce que je crois que si on ne connaît pas l'histoire, on risque de commettre les mêmes erreurs que ceux qui nous précédaient ont commis. Et ça permet aussi de mieux comprendre le fonctionnement de la société actuellement, de savoir d'où on part. Alors, depuis la fin du 19e siècle, on sait que la radioactivité est dangereuse. On connaissait déjà les rayons X, on s'est rendu compte que ça avait des effets potentiellement dévastateurs, et tout ça s'est confirmé dans la suite. Dans les années 20, une commission internationale a été mise sur pied, qui s'appelait l'International X-ray and Radium Protection Commission, qui s'occupait à l'époque uniquement de ce qu'on connaissait, c'est-à-dire les rayons X et aussi les propriétés du radium qui était utilisé médicalement. L'image globale de la radioactivité dans l'opinion à cette époque était extrêmement positive. Et vous allez peut-être en sourire, mais dans les années 30, on vantait la présence de substances radioactives dans les produits. Notamment, on vous mettait sur le marché des crèmes pour la peau qui contenaient de la radioactivité. On disait, contient de la radioactivité, c'est positif. Les eaux minérales radioactives étaient promotionnées. Dans ma ville où j'habite en Belgique, il y avait une source d'eau radioactive parce qu'il y avait du radon dans le sous-sol et on trouvait ça très bien. Ceux qui commercialisaient cette eau en faisaient la promotion. Il y a eu ensuite la deuxième guerre mondiale qui s'est terminée par le désastre de Hiroshima et Nagasaki, et l'image du nucléaire en a un peu pâti quand même. Moins qu'on pourrait le croire, parce que moi je suis né à peu près à cette époque-là, et je peux vous dire que dans les années qui ont suivi cette deuxième guerre mondiale, dans l'opinion publique en général, l'image du nucléaire n'était pas si négative que ça. On disait que ça avait permis de mettre fin à une guerre. Discours complètement fallacieux, mais qui passait. Enfin, dans la suite, comme les États-Unis en particulier, mais aussi l'URSS, souhaitaient développer le secteur nucléaire, on s'est rendu compte qu'il fallait mettre sur pied un organisme scientifique qui serait la référence incontestée en matière de risque de radioactivité. Et c'est de cet organisme que je vais vous parler aujourd'hui, qui est la Commission internationale de protection contre les radiations, qui a été officiellement mise sur pied en 1950, et qui est l'autorité suprême en matière de risque lié à la radioactivité. Or, cette organisation n'a cessé de faillir depuis son origine. Elle a sous-estimé continuellement les risques, à la fois involontairement et volontairement, il y a eu un mélange des deux. Pourquoi ce mélange des deux? Parce que, à l'origine, dans les années 50, je rappelle quand même que le président Eisenhower aux États-Unis a lancé le programme Atom for Peace en 1952, il fallait dédouaner le nucléaire, faire passer l'idée que l'atome pour la paix, c'était potentiellement une merveille pour l'humanité. Et c'est passé dans l'opinion internationale. Et donc, en parallèle, il y avait cette commission internationale qui devait dire, attention, il ne faut pas aller, il faut quand même pas exagérer, on peut développer le nucléaire civil, mais il faut quand même que ça se fasse dans certaines conditions. Alors, la CIPR, à l'origine, était sous pression aux États-Unis de le commissariat à l'énergie atomique, qui était un organisme civil, fortement influencé par le militaire, et où les experts qui y siégeaient étaient souvent issus de l'industrie militaire. Donc on avait là un mélange des genres qui était fâcheux à l'origine. Cette organisation, l'AEC aux États-Unis, donc Atomic Energy Commission, a dépensé énormément d'argent pour développer les applications civiles de l'énergie nucléaire aux États-Unis et dans le monde. il fallait faire passer l'idée que le nucléaire, l'industrie nucléaire civile, était un bienfait potentiel pour l'humanité. L'idée qui était véhiculée à l'époque, c'était qu'on pouvait avoir une énergie trop bon marché pour être mesurée. Too cheap to meter. Donc c'était magnifique, on allait avoir de l'électricité gratuite. Donc il fallait développer la technologie nucléaire, et on rejoint ici ce qui vient d'être dit à propos de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui a comme fonction officielle de développer et de contrôler en même temps le nucléaire. C'est quand même assez contradictoire. Développer et contrôler, c'est quand même deux fonctions qui sont en principe antagonistes, en tout cas qui ne sont pas compatibles. Il y a un mélange des genres encore une fois. En Europe, et on en parlera cet après-midi puisque mon ami Michel Rivasi sera là, le traité Euratom a été adopté en 1957, basé sur les recommandations de la CIPR, donc cette fameuse commission internationale de protection contre les radiations, qui devait fixer des règles de fonctionnement de façon à ne pas nuire aux personnes, à ne pas nuire aux travailleurs du nucléaire, mais aussi à ne pas nuire à l'industrie nucléaire. Donc il s'agit d'être bénéfique à tout le monde, sachant que l'énergie nucléaire étant potentiellement bénéfique, elle devait être encadrée sur base de principes qui étaient les principes suivants, principe de justification. J'insiste parce que c'est encore ceci qui est en vigueur aujourd'hui. Une pratique qui conduit à une exposition aux radiations doit être justifiée par ses avantages pour la société, qu'ils soient économiques, sociaux ou autres. Le deuxième principe est celui d'optimisation. L'exposition correspondante à la radioactivité doit être aussi faible que possible, as low as reasonably acceptable, principe ALARA. Et enfin, le principe de limitation, c'est-à-dire qu'il faut imposer des valeurs limites à ne pas dépasser. Et c'est à cela, ce travail, que la Commission internationale de protection contre les radiations s'est attelée pendant toutes ces années, depuis le début des années 50 jusqu'à aujourd'hui. En 1958, cette commission a publié ses recommandations et elle disait ceci. L'homme ne peut s'abstenir entièrement d'utiliser les rayonnements ionisants. En pratique, le problème consiste donc à limiter la dose de rayonnement de telle sorte que le risque créé soit acceptable pour l'individu et pour la population. Cette dose est appelée dose admissible. Donc, en fait, il s'agit d'experts, biologistes, physiciens, ingénieurs, médecins, qui s'arrogent le droit de déclarer ce qui est acceptable ou non. Ce qui, sur le plan démocratique, est tout à fait bizarre. La CIPR ajoutait, sans état d'âme, qu'elle était consciente du fait qu'on peut encore dresser le bilan exact des risques et des avantages, car il faudrait pour cela une appréciation quantitative des dommages biologiques éventuels et des avantages probables qui ne peut être faite actuellement, disait-elle. Donc en 1958, elle ne pouvait pas encore le faire. Donc, il y a un parti pris tout à fait sous-jacent qui est, il y a des dommages biologiques éventuels, alors qu'on savait très bien qu'ils n'étaient pas éventuels, ils étaient certains, et d'autre part, des avantages probables. Avantages probables qui ne se sont jamais vraiment matérialisés. Une impasse a été faite à l'époque sur la différence fondamentale entre une irradiation externe et une contamination interne. Les risques spécifiques liés à la contamination par les radioisotopes, à l'époque, étaient mal connus. Mais il était déjà clair que l'approche qui était basée sur l'absorption d'énergie par unité de volume ne s'appliquait qu'au cas où le système irradié est uniforme. Or, c'est le principe qui est toujours en vigueur aujourd'hui et qui a été fortement mis en question par un groupe de scientifiques constitué il y a peu d'années, à la fin du XXe siècle, avec à l'origine Chris Busby, qui est parmi nous aujourd'hui, qui est la cheville ouvrière de ce groupe, qui a créé le CERI, donc je le dis en français, c'est le Comité européen sur le risque de l'irradiation, qui a publié en 2003 des recommandations où il y a une analyse très fine et très approfondie du dérapage permanent de la CIPR en matière de risque des radiations, et le CERI propose une toute autre approche liée notamment aux études épidémiologiques qui ont été menées depuis de nombreuses années sur le terrain, mais aussi en se basant sur les propriétés chimiques et physico-chimiques de toute une série de radioisotopes qui sont disséminés dans l'environnement et qui se retrouvent dans les organismes vivants. Au début des années 60, lorsque la CIPR venait d'émettre ses premières recommandations, on était en pleine guerre froide. Et cette période a été considérée par beaucoup de scientifiques comme une période très noire. La CIPR n'a pas bougé pendant toute cette période où on a multiplié les essais dans l'atmosphère et on a disséminé des quantités impressionnantes de radioisotopes potentiellement cancérigènes et mutagènes dans l'environnement, provoquant des centaines de millions de morts, il faut quand même le dire, bien qu'il n'y ait pas eu d'études officielles à ce sujet. Les évaluations qui ont été faites, notamment par le CERI, montrent qu'on a largement sous-estimé les conséquences dramatiques de ces essais atmosphériques. Et la CIPR n'a pas bougé. Un de ses anciens dirigeants, Carl Morgan, qui est une personnalité tout à fait respectable, a dit à l'époque « La plupart des membres de la CIPR travaillaient directement avec l'industrie nucléaire militaire. » Ils recevaient l'essentiel du financement de leurs travaux de recherche de cette industrie. Sans doute ont-ils renoncé à mordre la main qui les nourrissait. Ce sont les propres propos de Carl Morgan, qui était un des responsables éminents de la CIPR. Donc il dénonce lui-même le fonctionnement de cette institution, et à juste titre. Je passe sur le problème des mines d'uranium, parce que j'ai remis un texte aux organisateurs, donc ceux qui sont intéressés peuvent le lire, mais je vais commenter. À l'époque, on exploitait avec beaucoup d'avidité les ressources en uranium pour alimenter l'industrie militaire et pour commencer à alimenter l'industrie civile. Et les risques liés à la contamination par les poussières d'uranium et par le radon ont été laissés de côté aussi par la CIPR, qui ne s'en est pas du tout préoccupée. C'est seulement après de longues années qu'elle est intervenue. Donc, défaillance, encore une, de la part de cet organisme. En 1977, on se rapproche tout doucement de l'actualité. Dans sa publication 26, la CIPR recommande de nouvelles valeurs limites d'exposition aux radiations. Et à la même époque, un travail considérable a été mené par trois scientifiques sur les travailleurs de l'usine de plutonium de Hanford aux États-Unis, qui ont montré qu'après une dose cumulée de 30 millisieverts au cours de leur carrière provoquait le cancer. Donc, on constatait pour cette dose cumulée de 30 millisieverts sur toute une carrière qu'il y avait manifestement un effet cancérigène sur les travailleurs de nucléaire. Or, la norme à l'époque, la limite de dose, était 50 millisieverts par an. Donc vous comparez 50 millisieverts par an à 30 millisieverts sur une carrière, c'est significatif de la sous-estimation. Plus tard, en 1991, je parle en belge, excusez-moi, comme je suis en Suisse, je crois que je peux me permettre de le faire. En 1991, la publication 60 de la CIPR, qui est toujours celle qui a fixé les valeurs limites en Europe et en Suisse aussi, puisque la Suisse fait partie de l'Union européenne, mais je crois que les valeurs limites sont les mêmes partout, puisque c'est la CIPR qui est l'organisme de référence. Et déjà, dans cette publication, la CIPR reconnaissait un certain nombre de lacunes dans les valeurs limites qui étaient proposées. Notamment, elle disait que les effets sur la santé reproductive étaient difficiles à prendre en compte, que le fœtus et les jeunes enfants étaient reconnus comme plus vulnérables, mais ça ne se traduisait absolument pas par de nouvelles propositions en matière de valeurs limites. On propose les mêmes valeurs limites, que ce soit pour des fœtus ou des adultes. Donc il y a là quand même une carence extraordinaire de la part d'un organisme qui est chargé de dire la vérité à tous ceux qui s'occupent de radioprotection. En outre, le caractère grossièrement simplificateur du modèle de calcul de l'impact d'une contamination interne, modèle qui a été mis à mal par Chris Busby et toute une série de scientifiques, dont M. Yablokov, qui est aussi présent aujourd'hui, ce modèle-là reste toujours en vigueur. Et encore aujourd'hui, il est en vigueur. La directive européenne qui fixe les valeurs limites date de 1996, elle est toujours en vigueur. Donc on est en train d'essayer de la modifier, mais pas les valeurs. On modifie quelques détails périphériques, on ne touche pas au cœur même des propositions. Donc il se fait que depuis maintenant une vingtaine d'années, 25 ans même, un certain nombre d'enquêtes épidémiologiques ont été menées autour de sites nucléaires, à Sellafield en particulier en 1983, mais il en a suivi une série d'autres dans les pays anglo-saxons, et aussi en Suède, en Allemagne, et on a mis en évidence que le modèle de risque de la CPR n'expliquait pas les conséquences mesurées. Et les conséquences mesurées, c'était essentiellement un taux de cancer chez les enfants plus élevé que la normale. Donc ce taux de cancer ne pouvait s'expliquer qu'avec des doses qui auraient été 100 à 1000 fois plus importantes. Ce qui est énorme.
Tu penses à conclure d'ici 4
ans ? J'arrive tout doucement à la conclusion, Marc. Toutes ces études épidémiologiques sont ignorées par la CIPR et continuent à l'être. Alors, plus grave, mais là, d'autres que moi en parleront mieux, Tchernobyl a donné lieu à d'innombrables publications. C'est vrai, une bonne partie en langue inaccessible aux scientifiques occidentaux, ce qui ne les disqualifie pas du tout, mais en tout cas, mais aurait mérité une attention beaucoup plus précise et beaucoup plus soutenue. Or, cette attention n'a pas eu lieu du tout. On a ignoré, jusqu'en 2007, les derniers travaux de la CIPR, on a complètement ignoré toutes les études menées sur les sites les plus contaminés, que ce soit en Biélorussie, en Ukraine ou en Russie. Or, de ces études, une série de conclusions scientifiques qu'on peut considérer aujourd'hui comme incontestables se sont imposées. Je ne vais pas les détailler parce que je n'ai plus le temps, mais vous en entendrez parler tout au long de la journée, notamment le fait que la sensibilité particulière des fœtus et des jeunes enfants doit être prise en compte, et notamment le fait aussi que les maladies qui ne sont pas seulement le cancer mortel ou les effets génétiques doivent aussi être prises en compte. Les dommages de la radioactivité, c'est notamment le vieillissement prématuré d'un organisme. Ça a été largement mis en évidence. Alors nous avons des données plus récentes, deux études épidémiologiques menées en Europe, en Allemagne et en France, 2007 et 2012, confirment qu'au voisinage immédiat des centrales nucléaires, le risque de leucémie ou de cancer chez les jeunes enfants est plus élevé et nettement plus élevé. Que font les scientifiques sur base des travaux de la CIPR aujourd'hui ? Ils disent on ne peut pas contester qu'il y a une corrélation statistiquement significative, mais on ne l'explique pas. Et on ne peut pas dire que c'est à cause d'un site nucléaire. Mais alors, c'est quoi ? Quelle est la cause ? Ils restent muets. Personne ne répond à ça. Ils disent que ce n'est pas nécessairement nucléaire, et c'est vrai qu'une corrélation, ce n'est pas scientifiquement parlant une relation de cause à effet, mais quand la corrélation devient systématique, ça commence à peser. Et là, les scientifiques sont muets parce qu'ils n'osent pas remettre en cause le modèle. Donc c'est le grand mérite du CERI d'avoir remis ce modèle en cause, et je considère pour ma part que c'est une des tâches essentielles du mouvement antinucléaire et de vous tous ici de faire connaître ces travaux et de s'en servir comme arme politique vis-à-vis de l'establishment scientifique, qu'il soit national ou international, c'est-à-dire la CIPR, mais aussi l'OMS. Parce que l'OMS fait le mort, mais c'est évident que si on lui met en dessous du nez une série de travaux qui remettent en question le modèle qui les inspire, on ne peut que susciter un certain malaise. Alors, quelle conclusion tirer de tout cela ? Tout d'abord, le modèle d'évaluation des risques de la contamination interne doit être impérativement revu. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de consensus scientifique. Le modèle proposé par Chris Busby et les autres ne fait pas consensus, mais il fait d'autant moins consensus qu'il n'est même pas pris en considération. Donc, il faut absolument provoquer le débat sur base des études épidémiologiques matérialisées, sur base des analyses physico-biologico-chimiques qui ont été proposées par Chris Busby et les autres. Et il faut absolument, à tous les niveaux institutionnels, provoquer ce débat. Et je trouve qu'il y a une très grande faiblesse, je le dis clairement, de la part du mouvement anti-nucléaire, et je ne m'en ressors pas, j'en fais partie. Nous avons été trop timides sur ce dossier, nous n'avons pas réussi à provoquer vraiment le débat. Or, il est plus que temps de le faire, parce que quand je vois le comportement de tous les responsables européens aujourd'hui, je me dis qu'ils ont déjà oublié Fukushima. Pour ça, on ne peut pas laisser faire, on doit absolument hausser le ton de façon très, très radicale et en se basant sur des travaux dont la qualité est incomparablement supérieure à celle qui sert de base aux valeurs limites aujourd'hui proposées. Il faut remettre en cause, et j'en termine, les principes de base de la radioprotection qui font de l'industrie nucléaire une industrie à part. On considère qu'elle peut polluer. Alors que si on prend la déclaration de Rio de 1992, qui devrait être confirmée maintenant dans quelques jours, puisqu'il y a Rio plus 20 qui se tient au mois de juin ici, le principe de précaution est le principe fondamental en ce qui concerne la contamination et la pollution, quelle que soit son origine. Il n'y a pas de raison de mettre la radioactivité à part. Donc il faut que le principe de précaution soit le principe dominant et non pas le principe de justification, de minimisation des doses et de limitation, qui sont des principes qui servent à protéger l'industrie nucléaire, mais en aucun cas à protéger les populations et même les travailleurs du nucléaire. Donc c'est ma conclusion. Arrêtons d'accepter implicitement, sans le dire nécessairement, que la radioprotection est efficace. La radioprotection protège avant tout l'industrie nucléaire. Elle ne protège pas les populations. Donc il faut absolument inverser cette logique et la combattre de façon radicale. Merci.
Merci Paul et merci d'avoir essayé de tracer des pistes justement pour notre débat tout à l'heure, c'est très important. Ce qui ressort aussi, moi j'aime bien sortir chaque fois une phrase de chaque exposé, c'est dans l'histoire.